Vous écoutez France Culture. Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
7h40 minutes la semaine dernière. L'UMP était dans la tourmente. Qui sait comment seront les Républicains dans quelques temps? La Cour d'appel de Paris validait les écoutes de Nicolas Sarkozy. Le Nouvel Observateur affirmait que la société Big Malion avait organisé des prestations pour le mariage de Jean-François Copé. Et Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, était placé en courte garde à vue, mais en garde à vue tout de même dans le cadre de l'affaire Big Malion. Mais peut-être une nouvelle pouvait consoler l'UMP, celle d'un nouveau membre tout frais, rejoignant ses rangs, fraîchement encarté pour se lancer à la conquête de la future grande région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon ou Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Bonjour Dominique Régnier.
Bonjour Marc.
Vous êtes professeur à Sciences Po, vous dirigez la Fondapol. On va rappeler tout de même qu'on vous connaît tout de même assez bien dans les matins de France Culture, puisque vous avez même été chroniqueur ici, d'ailleurs le lundi matin, à une certaine époque, pour Le Monde selon Dominique Régnier. Et puis, vous voici que depuis jeudi dernier, vous êtes officiellement tête de liste UMP-UDI pour les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Alors pourquoi le politologue que vous êtes veut-il désormais se lancer en politique? Quel est votre projet pour cette région? Êtes-vous un vrai parachuté? Mais comme tant d'autres, après tout, vous ne seriez pas le premier. Et puis, alors que la droite cherche sa ligne et change de nom, que peut aujourd'hui proposer la droite et comment peut-elle aussi se reconstruire plus généralement, puisque vous serez désormais un acteur, un nouvel acteur de cette UMP qui sait à devenir les Républicains? Nous sommes en compagnie ce matin pour évoquer toutes ces questions de Frédéric Béthézeau, du service politique de France Culture. Rebonjour Frédéric.
Rebonjour.
Et puis, un observateur de la vie politique qui sait qu'il y a aussi un jour passera le pas pour s'encarter, et encore que vous avez été acteur politique, vous, à une époque, Frédéric Lazorte, près de Dominique de Villepin, mais vous aviez signé un article qui nous avait intrigué et qui nous a permis de faire appel à vous ce matin sur notamment la question de la droite aujourd'hui, son statut, son avenir, son... ce qui peut lui arriver, c'était dans le débat pour le mois de septembre dernier. Bon, Dominique Régnier, habitué les matins, certes on l'a dit, mais pour la première fois, vous êtes notre invité politique de la semaine. Quelle mouche vous a piqué pour vous décider de vous lancer en politique?
C'est un mouvement qui m'a emporté. C'est une réflexion qui a quelques mois, peut-être davantage. C'est le sentiment d'avoir beaucoup dit sur le délitement de notre société par le fait que, étant observateur, analyste, j'ai passé beaucoup d'années à tenir la chronique de cette crise que je crois très grave. Et à un moment donné, le sentiment que soit je poursuivais la description de ce délitement continu, soit je m'arrêtais, faute de pouvoir être utile, ce qui est impossible, on ne peut pas s'arrêter d'avoir une préoccupation. Et conséquemment, je me suis dit peut-être qu'il fallait que je m'engage auprès de personnes qui déjà sont dans ce type de combat. Et c'est ça qui l'a emporté.
Vous êtes un fin observateur, et on vous a souvent fait venir pour cela, de la vie politique en Europe, des mœurs politiques en Europe, et notamment de la montée des populismes, et parfois des accointances entre les partis plus traditionnels, et ces questions de populisme. Est-ce que c'est pour essayer, quoi, à votre tour, d'agir sur ce champ-là en particulier, de cette crainte de la montée réelle des populismes, que vous avez envie de porter cette fois une parole politique en action et non pas en commentaire, Dominique Régnier?
Oui,
et qui plus est à droite, hein, nous ne le cachons pas de mots, à l'UMP.
Oui. Les partis populistes sont les symptômes et les manifestations de ce mal. Hein. Et c'est la nécessité, en tout cas qui m'est apparue, d'agir. Alors il faut être modeste, hein, on ne va pas se dire que tout seul on peut faire tout ça, ce n'est pas possible. Hein, mais d'agir avec d'autres pour essayer... De travailler sur les causes de ce mal. Et parmi les causes de ce délitement, il y a certainement une vie politique qui ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, avec des débats qui sont décalés, stratosphériques, sans rapport avec la vie de nos concitoyens. Et le sentiment qu'il faut essayer de mettre en place une nouvelle méthode.
Alors vous êtes, rappelons-le, né à Rodez, en Aveyron. Vous avez fait vos études à l'université du Mirail à Toulouse. Vous êtes aujourd'hui... alors donc quoi? Pas parachuté, c'est ça que vous allez dire? Je suis né à Rodez, donc je ne suis pas un parachuté?
Non, je suis pas du tout. Non, c'est pas du tout. On ne peut pas me qualifier de parachuté parce que... d'abord, c'est vrai que je suis ruthénois et avéronnais, et que c'est une partie importante de ma vie. Je suis d'une famille avéronnaise, j'ai fait mes études jusqu'au bac à Rodez, puis après je suis allé à Toulouse au Mirail, vous l'avez dit, je suis allé à Sciences Po à Paris ensuite aussi. Mais surtout, c'est la seule région de France où l'UMP et l'UDI se sont mis d'accord pour avoir une procédure régionale de désignation.
Alors, une procédure un peu bizarre. Il y en a qui disent que c'est le Vatican sans le pape. Hein. Un collège de 40 élus, plusieurs parlent d'un conclave, avec un gros soutien du maire de Toulouse. Contre M. Carayon du Tarn, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, la région Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon vous font les yeux doux pour les représenter tout à trac dans ces élections de décembre prochain?
Non, ils m'ont pas fait les yeux doux du tout. Hein.
Jean-Luc Moudenc, si.
Non, pas du tout. Enfin, je crois vraiment pas. Hein. En fait, ce qui est intéressant cette histoire, c'est que c'est une histoire vraie. Non, c'est une la composition du collège initial avec 20 élus du Languedoc-Roussillon, 20 élus de Midi-Pyrénées. Je signale d'ailleurs que c'est à mes yeux le premier acte fondateur de la grande région.
C'est inédit en tout cas.
Et puis c'est 20 élus pour les deux régions. Je rappelle juste que c'est un acte fondateur parce que j'en ai pas vu d'autres hein, aujourd'hui, quel que soit, je dirais, l'échiquier politique. Il y avait 10 candidats. J'étais le seul à pas être élu. C'est une campagne qui a eu lieu, un scrutin formel. Le bureau de vote était parfaitement organisé, isoloir, urne, assesseur, bulletin de vote. J'ai d'ailleurs vu pour la première fois de ma vie un bulletin de vote à mon nom à cette occasion, le 25
alors,
avril.
Alors juste quand on est politologue, c'est émouvant ça.
Absolument.
De voir son nom sur un
bulletin
de vote.
Absolument.
C'est-à-dire qu'on est passé de l'autre côté, ça valide le fait qu'on est passé
voilà,
de l'autre
exactement,
côté.
Voilà, exactement, exactement. Et ces élus, là, il a fallu les convaincre. Certains n'ont pas été convaincus, d'autres l'ont été, parfois tout de suite, parfois pas tout de suite. J'ai dû aller les voir, c'était un plaisir. J'ai parcouru cette région aussi pour ça déjà. Et il y avait comme un rite aussi d'initiation, si vous voulez, dans cette affaire. C'était une vraie compétition. J'ai été en tête à tous les tours. J'ai fait 12 voix au premier tour, 17 au second, au deuxième, 19 ensuite, et puis 23 à la fin. Il n'y a pas eu de... il y avait, encore une fois, 10 candidats. Non, c'est vraiment quelque chose qui était très ouvert. Je pense d'ailleurs... Je veux dire juste une chose, c'est que la presse qui s'est intéressée à l'élection me donnait éliminé au premier tour. Aujourd'hui, on me dit que c'était cousu de fil blanc, mais j'étais éliminé au premier tour, hein, selon la presse. C'était quand même intéressant. Il y a toujours ces reconstructions ensuite de ça. Et là, c'est la première fois que je participe à une élection en tant qu'acteur. Et je vois, c'est très intéressant pour moi, parce que je vois ce qu'il y a dans les commentaires... qui ne peuvent pas, au fond, être en adéquation avec ce qui se passe à l'intérieur de la machine.
Cela dit, il n'y a pas que les journalistes qui vous voyaient battu, il y a aussi beaucoup de vos nouveaux amis, quand même, qui ont vu d'un très mauvais œil votre arrivée. Le sénateur UMP de l'Hérault, Jean-Pierre Grand, vous juge parisien, mondain, estime que vos positions sur la gestation pour autrui, l'entrée de la Turquie en Europe, sont incompatibles avec la dépêche, avec les valeurs de l'UMP, c'est la dépêche du midi du 2 mai dernier.
Mais là, hier soir, il a proposé à Philippe Sorel, socialiste, de fonder une liste avec lui. Vous avez vu ça.
Il est assez sinueux.
C'est particulier. Il a un écosystème, disons, qui est le sien. Il doit son siège sénateur, et d'ailleurs c'est très bien pour lui, à des élus socialistes. Et il est en fait très proche de Philippe Sorel, qui est socialiste. Donc je pense que l'attaque contre moi, elle est quand même un tout petit peu pilotée. Voilà.
Frédéric ?
Oui, Dominique Reynier, je ne vais pas livrer un commentaire, mais plutôt vous livrer quelques faits. Est-ce que ces élus qui vous ont donc désigné tête de liste UMP, UDI au régional en Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, vous ont pas fait une sorte de cadeau empoisonné? Il y a 13 départements dans cette nouvelle grande région. Au départemental, il y a 12 départements qui sont à gauche. Un département UMP, il vous envoie un peu sur une mission impossible.
Bah, grosso modo, on dit que c'est imprenable.
Vous êtes candidat à la mission suicide.
Non, moi, depuis le début, je dis que je vais gagner parce que c'est une conviction profonde.
Hein. Parce que Malvin ne se représentera pas.
Parce que Fraîche n'a pas été remplacé.
Et
je ne veux pas être... c'est pas
12 départements sur 13 qui votent socialiste.
Je vais vous donner un exemple sur les départements. Je vous donne un exemple. La Lozère est passée à gauche. Elle a voté à 60% à droite. Au départemental, il y a eu beaucoup d'effets du redécoupage des cantons. Hein. Attention, dans le détail, c'est
notamment
pas...
Notamment un canton, le canton de Chirac.
Voilà, exactement.
Chef-lieu Chirac.
Dans le détail, c'est pas du tout cette géographie. Et puis, il y a un deuxième élément qui est que... Les deux grands patrons, en fait, de gauche, sont pas là, ont disparu ou sont en retrait nécessairement. Il y a une crise quand même de reconnaissance du leadership.
Martin Malvy à Toulouse et Fraîche. Georges Fraîche qui
voilà.
est décédé.
Un grand bonhomme, hein. Bon, il n'est vraiment pas été remplacé du tout, chacun le dit sur place. La machine, par exemple, de gauche dans le Languedoc-Roussillon est en évaporation, c'est ainsi. Hein. Elle peut être compensée par la montée du FN, hein, mais elle est en évaporation complète. Il n'y a pas d'idée. À gauche, il n'y a pas d'idée. Il y a des clientèles, oui, mais il n'y a pas d'idée.
On a vu l'échec cuisant à Toulouse, après tout, hein, du seul mandat socialiste.
Oui,
Pierre
Cohen. Et donc, si vous voulez, c'est une région qui est en réalité ouverte. Il y a eu 2 millions d'abstentionnistes sur les 4 100 000 électeurs au départemental. 2 millions d'abstentionnistes. C'est quand même un réservoir énorme ces électeurs qui ne sont pas contents ou pas convaincus et qui n'ont pas voté FN, je précise, puisqu'ils sont abstentionnistes. Donc c'est considérable. Et puis vous avez une élection qui n'a jamais eu lieu. J'appelle ça, moi, une élection de fondation. Il va falloir à la fois vivre cette première élection. Elle n'a jamais eu lieu. C'est une région grande comme l'Autriche, peuplée comme le Danemark. On n'a jamais fait ça dans cette région-là. Donc il faut inventer des formes de mobilisation, des formes de persuasion. Et là-dessus, il n'y a pas de sortant de ce point de vue-là. On est tous sur la même ligne de départ. Et pour ça, il va falloir inventer pour fonder une région qui, même si elle a des racines historiques évidentes et un substrat culturel
L'Occitanie.
Puissant, absolument, eh bien, cependant, est à inventer par les électeurs au moment de l'élection.
Alors, est-ce que là, en revanche, vous n'avez pas de peau, dit Frédéric Bédézo, en comptant les cantons qui ont plus voté à gauche qu'à droite, est-ce que là, vous avez, en revanche, c'est que c'est la région, finalement, peut-être, somme doute, un peu de parti pris, mais quand même, c'est la région qui est la nouvelle région qui semble la plus cohérente, qui, Midi-Pyrénées, ouais. Languedoc-Roussillon, elle a existé, on va dire, radiophoniquement à une certaine époque dans les années 70-80, elle existe par une topographie pratiquée de part et d'autre des Toulousains qui vont à la mer le week-end et inversement les Montpelliérains qui vont acheter des voitures d'occasion à Toulouse. Bon, il y a des liens comme cela. Est-ce que ça, cette homogénéité-là, a priori, qui n'est pas que de façade, est un atout? Mais par ailleurs, est-ce que ces différences sur la question économique, là, ne sont pas un gros handicap, parce qu'elles ne se ressemblent plus beaucoup, en revanche, sur la question de l'économie et Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon?
Vous avez raison, Marc Vanchet, c'est une région qui existe par elle-même, cette grande région. Et c'est probablement, vous l'avez dit, moi je partage cette analyse, hein. Si nous prenons le cas des fusions qui ont eu lieu, c'est la seule qui renvoie à quelque chose qui était déjà là. Et culturellement, historiquement.
Dans les usages. Hein,
mais c'est profond. Hein, c'est profond. Hein. Aujourd'hui encore, on le sent très fortement. Et c'est une chance, ça. C'est une chance. Ensuite, c'est une région qui est, cette grande région, qui peut être composée de ces deux anciennes régions, Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, dont la complémentarité est réellement possible. Au fond, on a une région qui va des huîtres au foie gras, si je remonte vers Midi-Pyrénées, en passant par un vin qui désormais s'exporte partout dans le monde, du midi viticole.
Ça va réellement devenir, c'est réellement du coup la première région viticole du monde.
C'est en train de devenir
en volume.
Ouais, les exportations sont et la qualité liée à une politique qui a été menée par les viticulteurs, une politique franchement qu'il faut saluer d'arrachage de plants pour valoriser la qualité du vin, et ça marche. Mais il y a aussi l'aéronautique qu'on cite souvent, dont moi je dis d'ailleurs que c'est à la fois une chance et aussi une forme de faiblesse. Parce que,
mono-industrie.
Ben oui, il y a 92 000 emplois qui sont liés à l'aéronautique, c'est très bien, mais il faudrait quand même ouvrir un peu pour pas que ce soit la seule chose ou l'élément principal. Il y a des grandes questions qui se posent pour le Languedoc-Roussillon. Quelle place pour le Languedoc-Roussillon dont la situation est plus compliquée en termes d'emploi et même catastrophique.
Hein, chômage.
Je suis désolé, mais 14,7% de chômage, c'est catastrophique. Et pour terminer là-dessus, mais on y reviendra si vous le souhaitez, Marc Vanchet, c'est pour ne pas être trop long. Hein, il y a une question que moi je pose et que je me pose, à laquelle j'essaie d'apporter une réponse. On dit Toulouse, c'est l'aéronautique pour être simple. Hein, on a raison. Montpellier, c'est quoi?
La mer.
Non, mais c'est pas la réponse.
Le soleil.
Le savoir.
Ouais, moi, je disais Montpellier, il faut en faire la cité savante.
C'est la place du Pérou, la place de la Canourgue.
Ouais,
la cité rencontres de Pétrarque.
La cité savante, parce qu'il y a à Montpellier des connaissances, des universités, des centres de recherche, de la R&D dans les entreprises. C'est la première région quand même en recherche et développement en France, hein, cette nouvelle région. Et donc il y a tout un univers là qu'il faudrait organiser, dont il faudrait faire un phare réellement d'économie de la connaissance, hein, qui est aujourd'hui l'économie qui, à mon avis, nous ouvre les portes pour un horizon de prospérité. Moi, j'ai un projet de prospérité, hein, pour cette région, c'est-à-dire de richesse partagée. Mais il faut répondre à cette question. Montpellier, c'est quoi? Et aujourd'hui, on ne le dit pas bien. On dit aujourd'hui, il va falloir donner la préfecture à Toulouse et à Montpellier autre chose. Mais comme si on distribuait au fond...
Mais d'ailleurs, il sera où le siège du conseil régional de cette future région?
Et moi, je propose que l'Assemblée régionale siège à Montpellier, que les délibérations aient lieu à Montpellier.
Vous allez avoir les Toulousains sur le dos, là.
Non, parce que ça ne veut pas dire que toutes les administrations régionales seront à Montpellier. On peut être raisonnable et rationnel, mais il me semble que symboliquement et politiquement, il faut marquer la nécessité de faire cette région sans que ce soit une région à deux vitesses, et donc de donner au Languedoc-Roussillon en général et à Montpellier en particulier, par un signe fort, une place éminente pour que ce soit une fusion réussie, et non pas le sentiment qu'on est absorbé par une région, ce qui est aujourd'hui un sentiment très présent à Languedoc-Roussillon.
Frédéric Métizeau.
Il y a un souci dans cette élection, Dominique Reynier, là vous n'en êtes pas responsable, c'est que si la région vous semble cohérente, on ne sait pas à quoi va servir cette nouvelle région, puisque les lois sur les nouvelles compétences ne sont toujours pas définitivement votées et validées. On sait grosso modo que la région va rester chef de file économique et le département chef de file pour le social, mais tout ça n'est pas très clair. C'est quand même assez fou comme situation. Vous partez une élection et vous ne savez pas très bien à quoi vous allez servir.
C'était le cas pour les départementales, hein, où nos concitoyens ont été invités à voter pour une institution dont le gouvernement lui-même annonçait la possible disparition, avec des binômes qui ont surgi d'un coup d'un seul. Ça, c'est, il faut quand même là rendre à César ce qui est à César. Hein. Le gouvernement a mené dans des conditions invraisemblables cette réforme territoriale, en changeant à plusieurs reprises la date des élections. Je veux le rappeler quand même, parce que c'est pas simple d'apprendre que les élections vont se déplacer dans le temps sans cesse. Finalement, c'est 13 décembre 2015, mais vraiment, ça fait pas très longtemps qu'on le sait. On ne sait pas très bien, pour certaines compétences, ce que fera la région. Donc voilà, il y a une réforme qui a été mal préparée, précipitée. Je suis d'ailleurs étonné de voir, je vous soumets cette observation très simple. Chacun sait, qui nous écoute, à quel point il est difficile dans notre pays d'obtenir une décision administrative pour des choses qui paraissent très secondaires, que ce soit une bordure, un muret, un Velux ou une paperasse quelconque sur le plan administratif. Eh bien là, on a quand même juste fusionné des régions à une vitesse incroyable. On a mis ça ensemble, sans consulter personne, je le rappelle, hein, ni les électeurs, ni les élus. Ça s'est dessiné à Paris, dans le bureau du chef de l'État, vous le savez, c'est une histoire fameuse. Quand
d'ailleurs,
même.
On a fait le dessin des régions avant de savoir à quoi elles allaient
absolument
servir.
Absolument. Il y a quelque chose de très parisien, très autocratique, très descendant.
Vertical.
Moi, je trouve ça très condescendant. Et je l'ai toujours ressenti depuis que voilà, je m'intéressais à la politique. Moi, je suis monté à Paris. Alors, voilà, comme on dit. Hein. J'ai toujours ressenti cette espèce de ton péremptoire de la capitale sur les provinces. Voilà, j'ai senti, voilà, moi, j'ai perdu un peu mon accent, mais on me l'a beaucoup fait remarquer quand je suis arrivé à Sciences Po. On me disait, quand tu parles, c'est comme un rayon de soleil qui rentre dans la classe.
C'est oui. Voilà. Bienvenue au club.
Voilà, je disais, je suis pas sûr que ce soit très sympathique ou très agréable.
C'est goulé, hein.
Voilà, exactement. Donc, il y a tout, ça s'est resté très fort. Et cette façon de dire, depuis un bureau, voilà, vous allez être ensemble ou pas, je trouve ça extrêmement violent. Alors là, ça se passe plutôt pas mal, mais c'est un coup de chance. Mais en revanche, sur ce qu'on va faire ensemble, on ne sait pas. Il y a même eu un but qui a été donné.
Mais vous partez quand même. Ah, vous y allez quand même.
Moi, une des causes de l'engagement, c'est que c'est ma région. Ça a beaucoup compté. Si on loupe cette fusion, les conséquences, elles sont particulièrement graves. Je prévois, peut-être on en parlera, mais pour ma part, je redoute une crise réelle et majeure des collectivités locales en France. Je pourrais vous dire pourquoi, hein. Mais je pense qu'il y a un vrai risque de crise majeure des collectivités locales en France. C'est pas, nos auditeurs le verront, c'est pas un petit sujet. Et juste là-dessus, il faut y aller parce que la raison qui a été donnée par ce gouvernement est la plus mauvaise qu'on puisse imaginer. Faire des économies, ça n'a pas de sens. Personne ne viendra voter pour faire des économies, personne n'aura envie de faire des économies ensemble. On fait la fusion pour la croissance, pour l'emploi, pour l'innovation, pour l'égalité entre les territoires.
Pour la visibilité à l'international.
Pour la visibilité à l'international, pour faire des économies qui n'auront pas lieu de toute façon, et je pourrais vous donner des exemples.
Il y a quoi, 550 000 chômeurs en Midi-Pyrénées.
Exactement. Voilà.
Et vous dites-vous que vous voulez en faire la nouvelle Silicon Valley?
Moi je dis que cette...
Vous êtes magicien Dominique Reynier.
Non, je dis que le conseil régional qui va sortir des urnes, s'il est porté par un mouvement collectif que je vais m'efforcer de créer, le conseil régional aura... en matière d'action économique, une puissance réelle. Avec un budget qui ne sera pas énorme, 4 milliards d'euros, ça paraît beaucoup mais ça ne l'est pas, des fonds européens à peu près équivalents, mais une puissance d'action qui est beaucoup plus importante qu'on ne le dit aujourd'hui.
Elle s'appellera comment cette région, Dominique Reynier? La Dépêche du Midi a fait un plébiscite. Alors dans l'ordre, on commence avec Occitanie-Pyrénées, Midi-Languedoc, ou Pyrénées-Languedoc, ou Midi-Roussillon, ou Midi-Doc, ça fait un peu... ou alors Languedoc tout court, ou Pyrénées-Méditerranée, ou Languedoc-Pyrénées, ou Sud de France, bon là ils avaient fumé
c'est
un peu,
marque, mais... déjà,
ou Sud-Pyrénées.
Sud de France,
une marque aussi, je crois. Alors
non, Sud de Marque est une France qui d'ailleurs est un peu aujourd'hui dispersée, mais c'est une marque qui existe. Non, la question du nom est une question très importante, que là aussi le gouvernement n'a pas vu venir comme question compliquée, je le signale au passage.
Symboliquement, c'est énorme.
Dans cette région,
c'est
hyper sensible. Oui. J'ai assisté à un colloque à Toulouse sur la question du nom, c'était chauffé à blanc. Hein, et le fait d'avoir une préférence personnelle ne vous sortira pas du fait que vous n'aurez pas l'unanimité là-dessus. Ça va être compliqué. Donc moi, ce que je vais proposer, c'est une méthode pour construire un nom ensemble. Mais l'idée d'arriver avec un cabinet d'experts ou qui va vous donner un nom ou une marque...
Ça ne fait pas des économies, ça.
Et ça ne fait pas des économies, non.
À 8h15, la deuxième partie de l'émission, vous connaissez, Dominique Régnier sera introduite, bien sûr, comme chaque jour, par Brice Couturier. Bonjour Brice.
Bonjour Marc, bonjour Dominique Régnier, bonjour à tous. Alors, de l'inadéquation de notre mode de scrutin, censé opposer un bloc de gauche à un bloc de droite, à l'état actuel du jeu politique caractérisé par un système tripolaire en réalité, qui n'est plus donc bipolaire, et ben les principaux leaders de l'opposition tirent des conclusions divergentes. En gros, deux solutions, siphonner les voix du FN ou bien faire exploser le système des partis actuels. Quelle est votre préférence à vous, Dominique Régnier?